Et salut tout le monde, bienvenue sur le Trichot, le premier de l'année 2024. Alors pour ce premier numéro, on a avec nous aujourd'hui Madame Leher. Bonjour Madame Leher, comment allez-vous aujourd'hui?
Bonjour à tous, bonne année. Bah ça va très bien, j'ai un peu mal aux jambes parce que je me suis dépêchée de rouler pour rentrer à l'heure pour le Trichot, mais ça va.
On a également Jérémy Quindos. Salut Jérémy, comment ça va? Comment se sont passées les fêtes de fin d'année?
Salut à tous, bah écoute, moi j'ai eu la grippe, donc je m'en remets à peine. J'ai passé 2 semaines de vacances assez mauvaises, mais bon, on reprend le cap et on retourne à l'entraînement.
On a avec nous Alex de Trims. Salut Alex, et toi, est-ce que t'as bien réveillonné? Est-ce que t'as célébré la nouvelle année ou pas du tout?
Non, moi j'ai juste célébré le retour de plus belle la vie, je suis vraiment heureux. J'ai retrouvé ma coutume. Mon rythme de vie, tout va bien.
Et toujours sur la Star Academy quand même.
Ah non, j'ai lâché là. Ils ont depuis qu'ils ont éliminé Candice, là c'est fini.
Bon, et ben pour ceux qui savent qui est Candice, voilà, vous saurez peut-être pourquoi ils boycottent. Moi perso, je sais pas. On va commencer tout de suite avec les up and down de l'année 2023. Donc c'est simple, on va vous donner un petit peu nos meilleurs moments et nos moments les moins mémorables de l'année 2023. On va commencer avec Jeanne. Alors Jeanne, pour toi, tes up and down de l'année dernière?
Pour moi, le down, qui aurait été mon down de la semaine aussi au passage, ça s'est passé en toute fin d'année, le 23 décembre, juste avant Noël, donc un peu tristou. C'est une athlète brésilienne, Luisa Batista, qui s'est fait renverser par une moto à l'entraînement. Et depuis là, j'ai essayé de trouver un peu des infos. Ça commence à aller de mieux en mieux, mais en gros, son poumon, elle a eu multiples fractures, on va dire, ça c'est quasi comme d'hab. Mais par contre, son poumon droit avait été touché et elle était en assistance respiratoire. Et là, elle commence tout doucement à aller mieux, de ce que j'ai lu sur la presse brésilienne. Donc, c'est aussi pour lui, c'était un bon rétablissement et lui a envoyé des petites ondes positives, parce que c'est jamais sympa quand ça arrive, quoi. Donc ça c'est pour la note down, elle est triste. Et sinon côté up, même si on est beaucoup souvent à critiquer un peu ce qui se fait, on va dire, mais ce qu'on peut pas enlever, c'est à l'équipe de France de triathlon tous les bons résultats de cette année en fait. Parce que il y en a peut-être qui vont choisir un moment, mais c'est vrai que l'équipe de France de triathlon, que ce soit dans les juniors avec Ilona, Manon et Ilona, les garçons, Nils et compagnie, ils ont tous été très costauds les jeunes, les grands pareil. Donc quand même bravo aux athlètes.
Et l'équipe du Luxembourg aussi qui a particulièrement brillé sur les courses court distance aussi cette année.
Ouais, c'est vrai, on a été bons. En plus, on a eu notre premier relais, l'année 2024 sera encore meilleure et qui sait, peut-être nous qualifierons aux Jeux Olympiques.
Jérémy, à toi maintenant pour l'année 2023.
Pour l'année 2023, je pense que le down, c'était vraiment le fait que au test event à Paris, on a eu un jour droit à un triathlon, le lendemain droit à un duathlon. Donc pour moi, c'est un petit peu l'incertitude encore sur la qualité de l'eau qu'on aura en 2024 pour les JO. Donc voilà, c'est le down de l'année. En up, moi je vois le retour triomphant de Pierre Lecor. Qui a un peu contré les mauvais pronostiqueurs qu'il voyait s'orienter vers le longue distance et qui finalement a rempli des critères pour se qualifier sur Paris 2024.
Et toi mon cher Alex, alors pour l'année 2023?
Moi ça va être super général, puis je vais en être né certain. Mon up, c'est le dopage en triathlon, parce que on a finalement eu un gros nom qui est sorti et qu'il y a une sorte de vague de terreur en ce moment sur l'ITA, l'organisme qui fait vraiment la lutte contre le dopage, qui essaye de trouver des histoires. Il y a de l'investigation, il y a des centres en Espagne qui se font visiter par la police tout d'un coup. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Il y a plein de pros qui parlent entre eux. Je pense qu'il y a des histoires qui sont sûrement vraies et toutes. J'ai la chance d'avoir des personnes qui essayent de me demander, de dire certaines choses que je ne peux pas parce que le journalisme en triathlon n'est pas là. Mais c'est clair que ça bouge beaucoup derrière. Puis je trouve ça bien parce que on a arrêté un peu l'omerta, ou en tout cas se cacher la face en pensant que il y avait pas de dopage en triathlon parce qu'il y avait pas d'argent, ce qui est pas le vrai. Il y a juste à regarder le marathon où il y a 5 Kenyans qui tombent à toutes les semaines et que pourtant ils gagnent pas énormément d'argent. Puis mon gros down, il est vraiment massif. Ben puis le monde seront pas contents parce qu'ils aiment pas ça quand on dit des mauvaises nouvelles. Mais c'est la perte de vitesse du triathlon de manière générale. On voit beaucoup d'épreuves mythiques qui s'arrêtent. Ironman qui a rechangé son calendrier. En France, je connais pas trop la situation, mais tu sais, j'ai vu des annulations aussi de courses, etc. Moi, il y a un truc qui m'a fait vraiment très mal. Il y a comme une tradition normalement sur la télévision américaine. Je pense que c'est sur ABC. À chaque année, ils diffusent pendant une heure et demie le résumé de Ironman Kona. Cette année, c'était pas le cas. Ils l'ont mis que sur YouTube. Puis tu sais, pour moi, ça veut dire quelque chose que tu sais que la télévision américaine, qui était une tradition depuis plus de 40 ans pratiquement, ils ont fait comme pouf, disparaît. Ben c'est fini. Fait que t'as plus les belles histoires, tu sais, le fameux, je sais plus, l'athlète qui devait déjà être mort depuis 28 ans, mais qui va réussir à faire Ironman. Tu sais, toutes ces histoires inspirantes. Pourquoi on aime le triathlon et tout, ben on est en train de s'enterrer tout seul. Puis tu sais, je pourrais parler aussi de la WTCS, la difficulté d'avoir des dates où finalement certaines courses vont être isolées sur des circuits de Formule 1 avec zéro public, plein de trucs comme ça, le bordel entre la PTO et Ironman, on va en parler, mais tu sais, la situation elle est pas cool en ce moment, surtout que l'industrie du sport, vélo, etc., ben tout le monde calcule son argent, est en déficit, puis c'est pas joyeux.
T'as raison sur beaucoup de sujets. Après, le triathlon en France, si tu posais la question, il se porte plutôt bien en termes de participants et puis de licenciés. C'est si on pense qu'en termes de chiffres. Après, effectivement, il y a beaucoup plus d'épreuves qu'avant aussi, et il y en a des mythiques. T'as pas parlé non plus de Vittel, par exemple, qui a été annulé cette année, qui est une épreuve mythique du calendrier, l'aquathlon, parce que pas de sous pour chauffer la piscine. Donc, elle aura pas lieu en février, mais a priori, ça aura lieu en décembre.
C'est pas un souci écologique, non?
Je pense que c'est plus une question de tunasse de la mairie, là, mais mais bon. Pour moi, les up, c'est un petit peu ce qu'a dit Jeanne aussi. C'est l'équipe de France en général, le triathlon français en général, et plus particulièrement, on a eu quand même un titre de champion du monde Ironman, ce qui est une première quand même. Et puis encore de la nouveauté avec un nouveau français qui gagne. Avec Dorian Coninx, le titre de champion du monde sur WTCS, et puis Emma Lombardi aussi qui continue sa progression, Cassandre aussi qui reste dans le top mondial, donc ça je trouve ça franchement bien, et puis tous les titres, Hugo Tormento, lui, etc. Et puis mon down, c'est la disparition de la Coupe de France, parce que c'est 2023, première année où il n'y a pas eu la Coupe de France, il y a eu Covid, mais voilà, donc la fin d'une époque, avec les fiestas, avec le rassemblement des élites et puis des amateurs et de tous les clubs français. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment mon gros down de l'année 2023. Et puis pour finir cette rubrique sur une note positive quand même, le vrai gros up de l'année 2023, c'est quand même la naissance du Trichot, quoi.
Non.
Quand même, c'est que vous ayez rejoint l'aventure, tous. Et donc merci à toutes celles et ceux, bien sûr, qui nous écoutent, qui ont fait le Trichot, qui font le Trichot, ceux qui ont participé de près de loin, tous nos invités, etc., et tous les intervenants qui œuvrent bénévolement, gratuitement, qui donnent de leur temps pour essayer de vous partager un petit peu notre passion pour le tri et essayer de vous décrypter un petit peu les actualités du triathlon à travers notre parole, notre vision du triathlon. Ça reste que notre vision, mais on essaye toujours de l'étayer un petit peu. Donc merci à toutes celles et ceux qui nous suivent, tous ceux et celles qui ont contribué aussi sur Buy Me a Coffee. Vous pouvez toujours le faire, allez sur Buy Me a Coffee, Trichot, et vous pouvez nous verser à partir de 1 euro pour nous aider à continuer à payer tout ce qui est frais de plateforme, etc. Voilà. Mais nous, on ne se verse pas grand-chose, voire rien.
J'avais juste un petit down à rajouter quand...
Voilà, le double down, c'est parti.
Non, mais c'est quand Jérémy il a parlé du test even, ça m'a fait penser parce que j'ai cru qu'il allait dire ça. J'ai cru que tu allais dire... que ça avait été hyper décevant que la France n'ait utilisé que 4 dossards chez les mecs, alors que déjà de base ils en ont 5 par WTCS, et là en l'occurrence c'était à Paris, du coup ils en avaient 7 ou même 8, je sais même plus, donc 7. Et je me dis, un Tom qui est passé à la trappe, heureusement ils l'ont mis à Pontevedra, mais il est quand même passé à la trappe à...
tu l'éliminais du critère olympique aussi,
oui, en plus accessoirement, mais et donc on peut élargir déjà Paris pour les mecs, Paris pour les filles avec des Mathilde, des Sandra, des Audrey, machin bidule. Et quand tu parles de l'olympisme, ça m'a, critère du moins, ça me fait encore penser au fait que, à part Cassandre, Léonie et Emma, aucune fille n'a eu le droit de s'aligner sur les courses qui étaient qualificatives pour le test Even, qui était lui-même qualificatif pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai quand même dit bravo aux athlètes et pas forcément bravo à la fédération, même si je sais qu'ils travaillent pour ça, évidemment. Hein, mais ils font pas les choses non plus parfaitement, à mon avis.
D'ailleurs, on pourrait faire de la projection sur toi. Si tu étais restée française, est-ce que t'aurais réussi à obtenir ton dossard pour Paris?
Non, bah c'est sûr que non, parce qu'en fait, j'aurais pas été à Cagliari et du coup, j'aurais pas fait top 5. Du coup, j'aurais pas été à Paris au test event. Et bon, de toute façon, j'ai pas fait de critères français pour me qualifier au jeu, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, j'aurais pas eu l'opportunité de faire le critère qui me permettait d'aller au test event.
Après, moi, je vais faire l'avocat du diable, pareil, dans le sens que les athlètes qui étaient présents au Paris test event, athlétiquement, c'était vraiment les plus forts. C'est pas comme Emma Snosil qui est championne olympique en 2008 et qui réussit pas à avoir de dossard en 2012.
Mais après, tous les gens qui y sont, ils le méritent. C'est plus, là, par exemple, chez les filles, ils ont 5 dossards par course. Vous pouvez en envoyer à Montréal, t'avais que Léonie. C'était pas une course qualificative, par exemple. Ils auraient
Parce que le vrai problème, moi, je vous ai écouté tantôt, puis j'ai rien dit, puis c'est clair que le bassin français est hallucinant, il est envié par tout le monde, etc. Mais moi, je vais pas être gentil. De toute façon, on est habitué. Il y a quand même un trou générationnel entre la nouvelle génération, les jeunes, juniors, etc., qui font très bien, et ceux qui sont les cadres en ce moment de l'équipe de France. Tu sais, j'ai pas vu tant que ça cette année du monde faire des podiums en Coupe du Monde, etc. Oui, non, mais Emma, c'est déjà un cadre. Elle a brûlé les étapes. Et d'ailleurs, on a un système qui demande tout le temps que tu brûles les étapes d'une certaine façon. Mais là, il y a juste eu Emma.
Mais j'allais te dire, le trou de génération, je sais pas s'il y en a eu un en mode vraiment tous les gens de la génération, je sais pas laquelle vraiment, était nul. Je pense que c'est plus la Fédé s'est tellement concentrée sur ceux qui étaient là que, je sais pas, on va dire les 98, 99, 2000, peut-être c'est ce trou-là que tu parles chez les hommes en tout cas, et c'est des garçons qui ont peut-être pas eu leur chance ni sur Coupe du Monde et encore moins sur WTCS puisque t'avais déjà à peu près 5 personnes sur WTCS, donc c'est sûr qu'ils n'avaient pas des masses de chance, mais qui n'ont pas pu non plus faire leurs armes sur Coupe du Monde ou sur les courses que les autres ne voulaient pas faire. Donc je pense qu'il n'y a pas eu un trou de génération vraiment qui est né avec une génération nulle, mais plus une génération qu'on a un peu laissée à l'abandon et qui essaie de se débrouiller tant bien que mal toute seule.
Après, on aurait qui là? On a Paul Jurgentum, Arthur Berland, on a
Nathan Lesman,
qui sont un petit peu dans cette intermédiaire. Thomas Hans Maenel, après, pour les plus jeunes. Yannis Séguin, Nils, ça, c'est encore les plus jeunes, mais effectivement, il manque les U23, l'équivalent chez les hommes des malons.
Il n'y a pas des masses de trous de génération pour moi. C'est plus une génération qu'on a un peu mis, pas de côté, mais c'est aussi du fait qu'il n'y avait pas les places sur les courses, mais qui a été un peu dans l'ombre de la génération tellement gold d'avant.
Quoi. Et c'est pas fini, cette génération gold, parce que peut-être que ils vont vivre encore de belles heures en WTCS et au JO aussi pour 2024. Donc,
sous l'inspiration de Pierre Lecor.
Il y aura peut-être pas besoin non plus de renouvellement de génération tout de suite aussi, et malheureusement pour ceux qui étaient dans les catégories 23, mais peut-être que tu vois, ça va aller jusqu'à 2028 pour certains, et puis tu auras les jeunes comme Nils, comme d'autres.
Oui, bon, c'est ce qui se dit, mais c'est juste un peu triste pour les générations qui se font
mais c'est sûr.
Voir un peu claquer la porte au nez, quoi.
Est-ce que vous, côté français, vous voyez pas une grosse surprise du genre je sais pas, soit des blessés côté français, et par exemple un Tom Richard qui a accès au WTCS qui peut faire une super course à Abu Dhabi et passer devant des cadres et être une surprise française.
Abu Dhabi, ça comptera pas assez. C'est un sprint, ils s'en foutent. À la limite, s'il fait podium à Yokohama, là on peut en parler, mais s'il fait un bon truc à Abu Dhabi, je suis désolé de lui dire, mais ça change rien.
En fait, la fédération a fermé la porte déjà dès l'année dernière pour tout ce qui est sélection. On est d'accord, il y a plus de place à aucune surprise maintenant, même s'il y a quelqu'un comme Yanis ou Tom ou d'autres qui se montrent monstrueux en début de saison, quoi.
sauf blessure, mais ça, ce serait malheureux et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Mais on a vu, par exemple, une Audrey Merle qui a eu une chance olympique à Rio, il me semble, de mémoire, sur justement très jeune. Donc voilà, parce qu'il y avait une place qui s'était ouverte aussi.
Mais c'était la même chose avec Cassandre d'ailleurs. À Rio, les deux obtiennent les deux obtiennent des dossards parce que des nations qui étaient placées devant.
Italie,
Allemagne refusent. C'est Cassandre qui rentre en premier, et finalement Audrey rentre après.
On va enchaîner maintenant avec l'invité de la semaine qui est autre que Claire Michel, qui a annoncé un an à l'avance sa retraite de triathlète professionnelle pour prendre la direction technique de la Belgique, de la Ligue francophone belge donc. Et on va l'accueillir tout de suite. Eh bien, pour commencer cette interview, donc nous sommes avec Claire Michel. Donc Claire Michel, triathlète belge, née en 1988. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Voilà, qui a plus de 100 départs maintenant en ITU, WTCS et WTS au gré des changements de nom. Qui a terminé cinquième aux Jeux Olympiques de Tokyo du relais mixte. Et puis voilà, plein de podiums, etc. En Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Championnat d'Europe, etc. Salut Claire, comment ça va?
Bonjour, merci, je suis ravie d'être avec vous.
Alors Claire, tu vois, j'ai dépeint très rapidement tes performances. J'aurais pu citer aussi ta 11e place en 2023 à Pontevedra sur la grande finale. C'est un résultat qui est quand même très marquant pour toi, je suppose. Mais quel est pour toi le... la course référence pour toi de ta carrière ou le meilleur souvenir pour toi?
Ouf, on commence déjà avec une question très large là. La course le plus marquante. Ben honnêtement, je pense que quand même la cinquième place à Tokyo en relais mix, c'était assez, c'était marquant pour moi. Mais d'une partie la performance, on était contente avec une cinquième place, mais on espérait, je sais qu'on n'était peut-être pas les favoris, mais on pensait qu'on avait quand même une petite chance de médaille. Mais c'est plutôt les circonstances, en fait, avec Yellow Jens, un des coéquipiers qui a eu le Covid, malheureusement. Moi, je me suis déchiré le mollet lors de la course individuelle quelques jours avant, mais on n'avait pas de remplaçant. Martin Van Riel, qui avait fait une très belle quatrième place, et Valérie Bartholomew, qui avait fait une belle dixième place aussi au jeu. Donc, c'était difficile, en fait, d'avoir une équipe encore en une pièce au départ et d'avoir quand même sorti avec une cinquième place. J'étais fière, en fait, de la résilience de l'équipe sur cette performance. C'est ça qui m'a marqué.
J'ai manqué dans cette présentation aussi d'annoncer que tu étais aussi représentante au comité des athlètes World Triathlon. Donc, tu as été élue à cette comité des athlètes. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce comité et nous dire un petit peu le rôle que tu as au sein de ce comité World Triathlon?
Donc, le comité des athlètes, en fait, c'est un mandat pour 4 ans. On est élu grâce à les autres athlètes, en fait. Mais il y a aussi on est 10 au total au sein du comité. Il y a 5 hommes, 5 femmes. Il y a minimum 2 paratriathlètes et il faut aussi que toutes les régions sont représentées. Donc, ils essayent d'avoir quand même une belle diversité là-dessus. C'est déjà mon deuxième mandat, donc ça fait presque 8 ans que je suis dans le comité. Et c'est en fait assez intéressant. Je me suis un peu impliquée là-dedans parce que je pense que c'est facile de critiquer les choses, mais c'est pas toujours évident de trouver des solutions et d'essayer de travailler sur des projets qui font avancer les choses. Donc voilà, ma petite manière, j'essaie d'essayer de faire un peu bouger l'aiguille.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur des initiatives que World Triathlon aurait avec les athlètes en ce moment ou
Oui, par exemple, je pense que un projet qui c'était surtout Nicolas Spiry qui est aussi dans le comité qui a un peu lancé cette initiative. C'est par rapport à les femmes qui tombent enceintes. Maintenant, il y a je ne sais pas exactement comment on pourrait appeler ça, mais c'est une règle maintenant qui, en fait, quand une femme tombe enceinte, son ranking sera congelé, frozen, pendant 2 ans. Et ça leur donnerait aussi, à partir 2 ans après, pour avoir accès à 5 courses avec le ranking qu'elle avait quand elle est tombée enceinte. Donc, c'est 5 wildcards, en fait, qu'elle peut utiliser pour, par exemple, voilà, revenir à niveau. Donc, ça, c'est par exemple une bonne chose, mais on travaille également sur la qualité de l'eau. Donc, avant, il y avait très, très peu de transparence.
Voilà, vaste sujet.
Vaste sujet, sujet de polémique, mais il y avait très peu de transparence par rapport à ça avant. Donc, c'est quelque chose qu'on a un peu poussé d'avoir un peu plus de visibilité là-dessus. On a refait un peu toutes les réglementations autour de, on appelle ça le swim behavior, qui reste aussi un peu parfois problématique.
Pour ceux qui nous écoutent, c'est les comportements en course, le swim behavior, donc ouais, les comportements entre athlètes ouais, pendant la natation.
On a vu quand même une belle évolution là-dessus.
Oui, mais tu vois, c'est ça aussi où c'est intéressant pour moi, parce que c'est facile à dire, oui, on aimerait bien que les athlètes ont un comportement un peu plus fair play dans l'eau, mais après, quand on réfléchit, comment est-ce qu'on peut réellement déjà mettre ça en règles, en mots, qui sont clairs, qui sont, comment est-ce qu'on explique? Parce que bien sûr, quand on est athlète, on sent la différence entre un coup qui est, voilà, juste un contact accidentel, et enfin, un accident, et d'autres qui est quand on tire vraiment dessus et on pousse quelqu'un vraiment sous l'eau. Donc, par exemple, introduire d'avoir un drone aussi, par exemple, c'est pas évident. Après, ça veut dire que chaque organisation de course doit aussi investir d'avoir un drone, un pilote de drone, qu'on a aussi des officiels qui sont formés pour. Donc, il y a tout ce qui va logistiquement autour, et ça, c'est intéressant dans ce type de projet. Et on apprend beaucoup plus sur... je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent à des courses, font la course et ils repartent. Et ici, c'est des projets comme ça qui me font réfléchir d'une manière beaucoup plus globale par rapport au sport et le développement du sport. Donc, c'est intéressant.
J'imagine qu'il doit y avoir aussi une réflexion sur le calendrier, sur les changements climatiques. Ben, pas les changements climatiques, mais tu sais, l'implication de tous les voyages et tout. Moi, j'ai vu le calendrier 2024. Puis je me suis dit que pour un athlète qui n'avait pas encore sécurisé son dossard, c'était n'importe quoi, en tout cas.
Oui, c'est sûr que le calendrier, aussi poussé pour avoir plus de primes, que ça n'a pas augmenté depuis des années, comment les primes sont reparties aussi. Il y a vraiment plein de sujets. Et c'est assez, c'est quand même assez, moi je trouve que c'est intéressant d'essayer de, mais bon, c'est plus complexe que juste, on peut pousser pour quelque chose, mais on gagne pas toujours, ça, c'est sûr. et il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans. Je pense que la difficulté aussi de World Triathlon de déjà avoir, juste des pays ou des villes qui peuvent organiser une World Series. C'est très, très compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. C'est très cher aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans, mais...
Et quel statut vous avez au sein de World Triathlon dans cette commission? Est-ce que, enfin, dans ce comité, est-ce que vous êtes bénévole? Est-ce que vous êtes rémunéré?
Bénévole.
Bénévole. Bon, comme dans tout le triathlon, quoi. En gros, ça, c'est bénévole.
Généralement, tu rémunères pas du monde qui vont t'attaquer sans cesse.
Et comment tu te situes? Est-ce que tu te situes plutôt en syndicat, entre guillemets, des triathlètes, c'est-à-dire que t'essayes de défendre les triathlètes auprès de World Triathlon, ou c'est vraiment plus un rôle d'intermédiaire, d'interface entre les deux?
En fait, donc le chair, donc il y a un athlete chair, donc et lui c'est le délégué en chef, si on peut appeler ça comme ça, et il y a un vice chair, donc son adjoint. Et le chair, il a un rôle de vote au niveau du executive board. Donc, vraiment, il a quand même un vote sur certains. Ouais, donc c'est quand même important. Après, c'est peut-être plus un rôle de lobbying, si je peux dire ça comme ça. Mais ils sont vraiment à l'écoute, en fait, quand nous, on lance un projet, comme l'exemple que je donnais là tantôt par rapport à des athlètes de protéger les athlètes qui tombent enceintes. C'est vraiment un projet qui est venu de nous. On l'a écrit, on a vraiment fait une demande et on l'a poussé jusqu'au bout. Et parfois, c'est eux aussi qui viennent vers nous. Par exemple, un gros sujet de débat, déjà depuis plusieurs années, c'est les athlètes transgenres. Donc, par exemple, comment formuler ce type de ouais, de mettre des règles en place et des statuts en place, et c'est pas évident. Et donc ils viennent vers nous pour avoir notre avis, pour avec d'autres experts, bien sûr.
Et vous vous sentez écouté? Est-ce que vous avez un vrai pouvoir de décision, ou est-ce que vous avez une pression de World Triathlon qui vous fait, bon, bah, dans les statuts de World Triathlon, il faut qu'il y ait un comité, et puis, bah, voilà, ils existent, mais on les écoute pas forcément, ou est-ce que t'as vraiment, tu sens vraiment que t'as un pouvoir quand même pour faire changer les choses?
Je dirais qu'on a quand même une influence. On peut avoir une influence, mais ça dépend, comme, il y a des gens, bien sûr, comme dans tout comité, il y a des gens qui sont plus impliqués que d'autres. Donc, pour avoir une vraie influence, ça veut dire aussi que nous, on doit être informés, on doit venir avec des solutions sur la table, et des choses qui sont quand même bien réfléchies, parce que eux aussi, ils sont, je pense qu'ils sont une trentaine. Donc, c'est une petite fédération, entre guillemets, et on oublie ça parfois. Donc, ça, c'est quand même important.
Il y a eu un sujet qui a fâché récemment, je sais pas si t'es vraiment au courant, mais il y a eu le cas positif de l'athlète russe. Qui est sorti comme un an plus tard, voire même plus, qui semble confirmer qu'il y a des suspensions silencieuses avec World Triathlon, qui est comme une hypothèse qui est souvent parlée entre athlètes. Est-ce que il y a des athlètes qui sont venus vers toi pour te demander des éclaircissements sur qu'est-ce qui est arrivé avec cette athlète russe, pourquoi elle avait été d'une certaine façon protégée?
Je pense dans ce cas-là en particulier, on n'était pas consulté, pour être honnête. Et j'avoue que je ne sais pas trop non plus s'il y avait encore des choses en. Tu vois, parfois il y a des s'il y a un A sample, B sample, tu vois, dans les. Enfin, s'il y a des choses qui sont en cours avec le CAS.
Les échantillons A et B.
Voilà, les échantillons A et B, mais aussi si c'est toujours en cours de justice, ben forcément ils peuvent pas toujours nous en parler. Mais par exemple dans le cas, je ne sais pas aussi à quel point moi je peux en discuter, mais je pense qu'on peut quand même le dire vu que c'est un peu dans le passé. Mais quand il y avait eu plus de 4 cas positifs russes en 2022 ou 2021, si je ne me trompe pas. Ouais. Ben, 21. Et alors, du coup, ben, les sanctions qu'on a eues en 2022, ben là, on était consultés. Mais ça, c'est dans un cas où, voilà, il y a eu des cas positifs. Il existe dans le règlement, dans World Triathlon, toute une liste de sanctions possibles quand il y a un pays qui a plus de X nombre de cas positifs sur 12 mois. Et donc là, c'était une question, comment est-ce qu'on met ces sanctions, à quel point, etc. Donc, voilà, il y a certains aspects où ils vont nous consulter et d'autres, pour une raison ou une autre, on n'est pas toujours consulté.
Est-ce que je peux te partager un vœu pour 2024? Parce que moi, je me suis renseigné un peu sur les suspensions silencieuses, etc. Mm-hmm. Et en fait, j'ai appris que certaines fédérations, comme le tennis, etc., avaient pris position face à ça en interdisant les suspensions silencieuses. Fait que, est-ce qu'on pourrait demander à World Triathlon de faire la même chose pour clôturer ce dossier-là une fois pour toutes?
Elle n'a pas répondu que tu pouvais partager ton vœu encore. Hein.
Ouais, ben c'est ça. Les vœux, de toute façon, ça se réalise jamais. Mais tu sais, je veux dire, si World Triathlon veut être honnête et regagner une certaine confiance et tout, parce que tu sais, je le sais que dans le milieu, il y a du monde qui parle sur plein d'athlètes, que tu sais. Il y a même eu des retraites que certains ont questionné. Il y a plein de choses. Mmh. Tu sais, puis si on veut être sérieux face à la lutte contre le dopage et tout, ben tu sais, il faut prendre des positions claires et nettes, quoi.
Ouais.
Après, je suis à 100% pour ITH. Je suis sûr qu'on est en train de faire la différence là-dessus et tout, mais c'est une position qui est facile à prendre.
Ben j'allais dire que je pense que déjà un premier pas de travailler avec une agence externe, l'ITA, pour déjà c'était un bon premier pas d'ici il y a quelques années. Maintenant, est-ce que c'est encore parfait? Non. Je pense que aussi les nouvelles qu'on vient de voir par rapport à l'Espagne.
Moi, je me posais la question aussi, vu que vous êtes un petit peu le lien entre les athlètes et World Triathlon, est-ce que dans les cas de suspicion de dopage, vous avez déjà eu par exemple des athlètes qui vous rapportaient des suspicions à propos de certains athlètes pour que vous puissiez, on va dire, notifier World Triathlon, d'aller les contrôler? En gros, est-ce qu'il y a des balances un petit peu parmi les athlètes sur des comportements suspects chez des concurrents, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu à peu près ça?
Je pense que nous, en fait, notre rôle, c'est de diriger vers les experts. Donc, en fait, moi, personnellement, je n'ai rien. Si quelqu'un me dit ça, ben, je vais les envoyer vers ITA, par exemple. Et qui sont venus, par exemple, il y avait quelqu'un qui était venu au briefing de ITA pour expliquer, voilà, si vous avez des suspicions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir vers nous pour en parler, voilà, l'adresse email, les contacts, blablabla. Mais ce sera la même chose si, par exemple, un athlète vient vers moi et me dit, voilà, je suis dans une situation délicate, je sais pas, d'abus lors d'une fédération ou un problème ou l'autre. Il existe, en fait, toutes sortes de mécanismes pour protéger l'athlète, mais parfois, l'athlète ne sait pas où aller. Et ça, c'est notre rôle, en fait, c'est de diriger, de savoir déjà vers où y aller et d'essayer de diriger si possible. Mais c'est toujours délicat parce qu'on est entre quelque chose qui est international et souvent c'est aussi au niveau national qui doivent, enfin il y a un peu cette entre international et national et c'est vraiment du cas par cas.
Par balance, tu voulais dire lanceur d'alerte, hein, Jérémy, hein. Je pense que c'est ce que tout le monde aura compris en écoutant le podcast, hein, bien évidemment.
Ouais, moi je parlais du signe astrologique, mais ouais, tu peux trouver d'autres
signes. Claire, tu t'as annoncé il y a pas longtemps sur tes réseaux sociaux et qui a été repris sur l'excellent média, la chaîne du triathlon d'ailleurs. Ta retraite internationale fin 2024 en tant que triathlète pro et tu vas prendre la direction technique de la ligue francophone. Comment ça s'est fait et est-ce que pour toi là t'arrêter après 2024 c'est pas un peu tôt? Sans t'être lancé encore sur le longue distance et alors que t'as encore des choses à prouver et qu'en 2023 t'as fait 11e à Pontevedra.
Merci déjà de dire que c'est peut-être un peu tôt parce qu'il y a beaucoup de gens par rapport à mon âge qui me disent ouais Claire.
Ouais mais ça je te dis ça parce que je suis plus âgé quoi, donc pour moi t'es encore jeune quoi, c'est bon.
Ouais, puis t'as pas ramassé l'échec de PTO.
Voilà. Mais c'est sûr que j'ai, pour reprendre un peu dès le début, l'année passée, il y a ce poste de directeur technique qui est venu. Il y a quelques personnes qui m'ont, au sein de la fédération, qui m'ont un peu encouragé, on va dire, de solliciter. Et donc, j'ai longtemps hésité parce que justement, je trouve que tout ce qui se passe avec PTO, etc., ben, même par rapport à il y a 3 ans, ça a complètement changé la dynamique et l'attrayance pour les athlètes, en tout cas. Et je suis, en fait, assez quand même curieuse de voir ce que ça pourrait donner pour moi sur la longue distance. Je trouve, justement, que je perds un peu ma explosivité, mais qu'avec l'entraînement qu'on fait actuellement, je pense que Jeanne peut confirmer que je pense que ça pourrait passer sur cette distance-là. Maintenant, ceci dit, voilà, j'ai jamais été sur un vélo TT, donc je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer la distance. Mais pour finir, c'est aussi un peu d'autres projets de vie, une envie de commencer une famille, etc., qui faisait que j'ai quand même sollicité pour le poste. Je l'ai eu. Je vais commencer alors en début janvier 2025, donc dans un an. Et donc voilà, je me suis dit ok, voilà, ce sera un peu j'aimerais bien faire quand même quelques demi-distances juste pour clôturer, pour satisfaire un peu ma curiosité, mais c'est aussi un projet qui m'intéresse beaucoup, d'essayer de faire développer le triathlon chez les jeunes côté francophone, et donc je me suis dit voilà, c'est un peu le timing, je ne sais pas si c'est exactement le bon timing ou le mauvais timing, mais bon voilà, c'est l'opportunité qui s'est présentée comme elle est et j'ai pris la décision d'y aller. J'ai quand même hâte de passer aussi à autre chose, même si je pense que le triathlon va me manquer.
Il va nous manquer aussi dans le groupe.
Comment tu vois le triathlon belge en général? Est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a eu une petite déception sur les attentes qu'il y avait sur les JO de Tokyo? Et par rapport à Yele, par rapport à Martin Van Riel, par exemple, chez les hommes, comment tu vois en fait le triathlon? Là, on voit que le triathlon français, c'est pas pour être prétentieux, mais c'est pour rester français. Tu vois, comme c'est le meilleur du monde, comment tu positionnes le triathlon belge par rapport au triathlon français?
C'est les Anglais les meilleurs.
Non, par rapport à ça. Mais c'est juste comment tu situes le triathlon belge. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai essor? Est-ce que tu vois des bonnes chances pour 2024?
Ça, c'est deux choses différentes. Donc, par rapport au futur du triathlon belge, je pense qu'on a un petit chantier à faire. Parce que je pense que cette génération dont tu parlais, Marthe, Nielle, moi-même, Valérie, ils ont la majorité ont quand même des plans de passer vers le longue distance par la suite. Donc, par rapport à les distances olympiques, il y a peut-être un petit trou parce qu'on n'avait personne, par exemple, en U23 lors des championnats du monde. On n'avait pas grand monde en junior non plus. Et bien, pour ceux qui ne savent pas trop non plus, la Belgique, il y a deux fédérations. Donc, il y a la fédération francophone et néerlandophone. Pour un petit pays, de diviser les budgets, les ressources, etc., ça n'aide pas. Du coup, c'est un...
Parce que t'as pas une structure qui chapeaute les deux, c'est pas comme...
On a une genre de coquille vide qui chapeaute les deux parce que par rapport au niveau international, bien sûr, on est un pays.
Ok.
Mais par exemple, quand moi j'ai commencé en triathlon, c'était fin 2012, quand on arrivait sur une Coupe du Monde, par exemple, c'était des athlètes francophones dans un hôtel, des athlètes néerlandophones dans un autre hôtel, deux coachs différents. Et à la limite, on arrivait dans la zone de transition, il fallait se présenter à les autres Belges. Bonjour, moi c'est Claire Michel, je suis aussi pour la Belgique. Donc c'était vraiment un peu séparé. Maintenant, c'est un peu amélioré. On voyage ensemble, on a un bon esprit de groupe. Mais en fait, ça dépend très très fort des personnes, du volonté des personnes qui sont des dirigeants qui sont là et un peu des athlètes aussi de vouloir collaborer et travailler ensemble. Et donc ce sera en partie mon rôle aussi, d'essayer de créer un peu cet esprit national, malgré qu'on est subsidié différemment. On est subsidié via deux organes. Donc, c'est des contrats différents qui soutiennent les athlètes. C'est vraiment un système un peu complexe, mais si on peut essayer de trouver quand même de belles synergies pour travailler ensemble, je pense que ça peut... Je pense que la Belgique, en fait, elle a quand même du potentiel.
Et pour 2024, alors, comment tu vois l'équipe de Belgique?
Donc, pour les Jeux de Paris, je pense qu'on aura deux places de quota pour les hommes, deux places de quota pour les femmes, probablement. Chez les femmes, on est plus ou moins trois, Jolien Vermeulen, moi-même et Valérie Bartholomy, qui sont un peu dans la course pour les deux dossards. Et sur le côté masculin, c'est probablement... Yellow Gaines qui a déjà en fait les critères belges pour avoir sa place, et ensuite c'est Martin, et après lui ce sera Arnaud Mangal qui commence à monter un peu actuellement. Ça c'est un peu les...
Et on a Noah aussi, j'avais oublié Noah, mais Julien allait m'en vouloir, mais Noah Servet.
Noah, oui. Et donc voilà, ça c'est un peu ceux qui sont dans la course pour les Jeux. Et ça va se jouer un peu ici, les places. Dans mon cas, en fait, pourquoi la 11e place à Pontevedra était importante, c'est parce que ça, c'était un des critères belges. Et si je fais encore un top 8 dans une World Series, n'importe laquelle, ici, avant la fin de la qualification, moi, j'aurais assuré ma place. Si personne n'a fait ça, alors ça devient sur base d'une décision d'un comité.
Dernière question. Si je me rappelle bien, tu es passé par la NCAA en athlétisme?
Moi, en fait, j'ai grandi aux États-Unis. Je suis née à Bruxelles, mais j'ai passé 20 ans aux États-Unis. Et donc, j'ai eu un peu la chance de grandir dans cet environnement où le sport études, par exemple, était très, très bien intégré. Et donc, j'ai fait plein de sports, hein, mais je dirais que vers mes 12-13 ans, j'ai commencé un peu la natation, plus sérieusement au club, et ensuite... vers 15-16 ans, j'ai commencé l'athlétisme et j'ai eu une bourse pour courir pour l'Université d'Oregon. Donc voilà, j'ai fini mes études en 2011 et j'étais spécialisée dans le 3000 mètres steeple à cette époque-là. Et je revenais en Belgique pour essayer de me qualifier pour les Jeux de Londres en 3000 mètres steeple parce que j'étais pas loin des minima. Mais des blessures ont mis fin à cet espoir pour les Jeux de Londres, et donc c'est comme ça que
qu'est-ce qui t'a encouragé à passer en triathlon? Je sais plus, on était déjà dans l'époque Gwen Jorgensen, je pense, à cette époque-là. 2012, ouais.
Oui, Par exemple, le 3000 mètres steeple, j'ai fait les championnats nationaux avec Katie Zafarez, par exemple, qui était aussi un peu de la même époque. et quand je suis revenue en Belgique, et comme je disais, j'ai essayé de me qualifier pour les Jeux de Londres, des blessures on met fin, enfin ça a mis fin un peu, j'ai une double fracture de stress en tombant dans des obstacles avec la barrière avec de l'eau, et j'en avais un peu marre des blessures et tout ça. Mais vu que j'étais un peu, voilà, je suis revenue à Bruxelles, je connaissais pas grand monde, j'ai rejoint un club de triathlon parce que je me dis, oh, ben, j'aime bien quand même courir pour le fun et j'aime bien nager. Et bien sûr, là, ils m'ont dit, mais en fait, on va te prêter un vélo, vas-y, tu vas voir, fais un tri, c'est chouette. Et donc voilà, enfin, j'ai fait mon premier triathlon et j'ai adoré. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis mis dans le bain. Et c'était justement quelqu'un de la Fédé en fait qui m'a vu et qui m'a dit lors de mon deuxième triathlon, il m'a dit en fait ça t'intéresse un peu le haut niveau, et j'ai dit ouf, je ne sais pas, je ne sais pas trop, mais j'avais un peu ce rêve olympique parce qu'à cette époque-là j'ai commencé à travailler temps plein, j'avais mis un croix sur le sport haut niveau, je faisais vraiment le sport pour rencontrer des gens, pour l'aspect social, etc. Mais quand il m'a un peu demander, bah alors là je me dis ok, mais alors on vise Rio dans 3 ans et demi. Il m'a dit ok, bon, on va commencer par t'acheter, on va investir d'abord dans un vélo et on verra bien.
Parce qu'il faut savoir que Claire a eu 15 vies, parce que, enfin, si je me rappelle bien dans ce que tu m'as raconté, c'est que quand tu travaillais, à un moment tu travaillais en Espagne aussi, il n'y avait pas un truc comme ça?
Ouais,
et en plus,
ouais.
Elle parle espagnol, français, néerlandais, un peu d'italien, un peu de portugais, etc., etc.
Ouais, j'ai eu de la chance un peu de vivre dans plusieurs, enfin, de passer pas mal de temps dans plusieurs pays. Et voilà, ça m'a permis un peu de développer plusieurs langues différentes.
Toi qui as connu justement plein de nations, tu sais, j'imagine que même en Belgique, il y a souvent ce débat-là sur est-ce que la Belgique est une nation sportive, est-ce que... toi qui as vécu aux États-Unis aussi, tu sais, ça doit te faire un peu rire, parce que moi ça m'a fait rire récemment là. J'ai vu un reportage sur l'INSEP sur M6, puis tu sais, on nous parlait de champions, usine à champions, puis tu vois les infrastructures, puis tu te dis, mais n'importe campus universitaire, c'est 3 fois ça, quoi. En tout cas,
ben, c'est sûr que le système d'intégration des sports études à l'université, enfin dans les universités aux États-Unis, c'est un gros avantage, parce que entre 18 et 22 ans, t'as un système qui est mis en place, qui met tout à ta disposition pour que tu réussisses aussi bien tes études que ton sport. Et c'est important, parce que si tu ne réussis pas tes études, tu n'es plus éligible pour faire ton sport. Maintenant, il y a un truc qui est un peu paradoxal, mais qui a un effet positif peut-être, c'est, voilà, comme vous le savez, aux États-Unis, le sport est, enfin, l'université est très, très, très chère. On parle 20, 30 000 par an, dollars par an, qu'il faut payer. Du coup, les bourses sportives sont super intéressantes. Et ça veut dire que, alors, du coup, en secondaire et même en primaire, ils font tout pour aussi développer des infrastructures sportives, etc., pour que les athlètes, les étudiants puissent développer leur sport pour avoir une bourse, pour aller faire leurs études. Et donc, en fait, il y a un genre de système comme ça qui filtre du bas vers le haut. Par contre, dès que tu as fini tes études et que tu sors de ce système, soit tu es déjà top mondial et tu es pro, ou sinon, il faut aller se débrouiller. Et ça, c'est compliqué, je trouve, c'est un peu délicat. Par contre, l'impression que j'ai eue en Belgique... quand je suis revenue en 2013, j'ai fait un post-masters en Belgique. C'était un peu l'année aussi où je commençais le triathlon. Et j'ai senti la différence. Il fallait vraiment, vraiment, soi-même en tant qu'étudiant, vouloir se débrouiller pour pouvoir jongler les entraînements entre les cours, etc. Et je me souviens j'ai été aux directions de l'école pour demander si je pouvais avoir accès à un local. Pour juste mettre mon vélo, je prenais une douche entre les cours dans l'évier Et c'est comme ça que j'arrivais à caler, par exemple, mes 3 entraînements par jour. Sur mon pause de midi, je pouvais m'entraîner après les cours et avant les cours, mais c'était beaucoup plus débrouillard, en fait. Et si tu n'as, et je comprends qu'il y a beaucoup qui se décrochent un peu à ce niveau-là. Et donc, je pense que cette, j'avais un peu l'impression, même chose quand je sollicitais pour un poste de travail, que si je mettais, par exemple, sur mon résumé que j'avais fait du sport de haut niveau, c'était presque mal vu. Tandis qu'aux États-Unis, c'est quelque chose, ils disent, ah, voilà quelqu'un qui a réussi ses études, qui a réussi à combiner ça avec du sport de haut niveau, ils voient ça comme un plus-value. Tandis qu'en Belgique, j'ai l'impression que c'était un peu l'inverse, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est pas toujours évident à mettre, de changer cette culture, en fait, de promouvoir le sport et la valeur que le sport peut apporter à une personne, et la rendre plus complète.
C'est pareil en France, en fait. Yeah. Moi, j'ai un peu le même profil que toi, où j'ai fait une école d'ingénieur en même temps que je m'entraînais et que j'essayais de faire du haut niveau. Et à partir du moment où je suis rentré dans le monde du travail, la ligne triathlon à haut niveau, en fait, ils en avaient rien à faire. En fait, ils le valorisaient pas comme les qualités qu'on peut avoir, comme le fait d'être rigoureux, d'être persévérant, d'être discipliné et toutes les qualités qu'on peut avoir dans la pratique du triathlon haut niveau. Donc, ce que tu as eu à faire face en Belgique, on l'a aussi à faire en France. Et malheureusement, quand on voit les athlètes de haut niveau français, la plupart ont dû choisir, en fait, soit arrêter le tri et faire leurs études, ou soit arrêter les études pour faire du tri. C'est principalement comme ça, c'est pas du tout comme au States.
Ouais.
Après, il y a quand même un gros avantage quand même, hein, c'est que là, on parlait du triathlon professionnel, etc., mais on peut voir un gros aspect positif quand même au sport. Là, tu parlais de la France, au sport français, c'est qu'on a un tissu associatif français et un tissu de bénévoles et de clubs qu'on ne retrouve pas du tout aux États-Unis. Et à partir d'un certain âge aux États-Unis, si tu veux continuer la pratique sportive, c'est quasiment impossible. Sauf si tu es à très haut niveau, mais même si tu as un bon niveau et que tu veux continuer, c'est très très dur, ou sinon ça coûte très cher toujours, donc c'est encore une sélection par l'argent. Et alors qu'en France, tu peux faire partie d'un club pour 150 € par an, t'as ta licence et tu peux aller dans une piscine, ce qui est pas du tout le cas aux États-Unis. Et bien souvent, les universitaires américains qui n'ont pas performé arrêtent le sport, et parce qu'ils peuvent pas tout simplement continuer, qu'ils en ont bouffé pendant toutes leurs études et qu'ils arrêtent aussi. Donc c'est très bien pour le haut niveau. Après, il y a des limites aussi quand même dans le système américain.
Après, surtout, le petit avantage que tu disais, Claire, pour entrer en université, du coup, ils essaient de faire en sorte que les jeunes soient bons en sport pour avoir des bourses. Et ça, bon, peut-être que la finalité, c'est d'avoir une bourse pour les études, et peut-être que, je sais pas comment ils les entraînent, mais peut-être un peu trop fort. Mais mine de rien, faudrait peut-être un peu s'inspirer de ça, ou faire un peu prendre les deux et faire une petite moyenne, parce qu'en la France, où t'as que 2 heures de sport par jour, où on augmenterait peut-être pas, t'as les lobbies de ah mais il faut plus d'histoire et pas de sport, etc. Je pense que les jeunes auraient pas à perdre à faire un peu plus de sport et avoir le nerf plus dehors, quoi.
Les jeunes auraient un peu plus.
Eh oui, voilà.
Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, la France va se doter d'un nouvel gouvernement et nous allons avoir des propositions à faire à ce nouveau gouvernement. Donc, merci pour cette excellente transition. Allez, en attendant, on va basculer sur tes pronostics de 2024. Il va falloir que tu t'engages un petit peu, Claire. Sur les Jeux Olympiques de 2024, oula, nous allons attendre ton top 3, ton podium chez les femmes, chez les hommes et le relais mixte. Alors, c'est parti.
Elle a pris anti-sèche, elle a écouté le podcast de Max tout à l'heure.
Ah!
Ouais. Ouais. Mais bon, je trouve que c'est dur quand même.
On n'a pas dit que c'était facile, mais à un moment donné, il faut s'engager, même quand tu es dans le comité des athlètes, tu vois.
Écoute, on va commencer chez les hommes. Je vais donner un pronostic belge. Il y aura une échappée avec Maarten van Riel.
C'est drôle, mais ça, c'est peut-être la seule certitude qu'on a sur les jeux.
Avec Schomburg, ça, ouais. Ah oui, c'est vrai. Désolé.
S'il est qualifié, Schomburg, c'est pas qualifié.
Parce que je pense que les Français, ils vont être chauds aussi, hein, pour faire une échappée, non?
Une échappée avec Martin? Ouais, ça, j'en suis pas sûr. il faut que ça...
Tu vas voir combien de bières ils vont payer à Martin pour contribuer à l'échappée. Ça sort en date, hein. Oh, c'est difficile. Bah, je sais que c'est un peu cliché parce qu'il a gagné le test event, mais je vais quand même mettre Alexis en premier. Je mets quand même Alexis, parce qu'il s'est quand même amélioré en faire un nat, mais Hayden Wild aussi. Allez, Hayden deuxième. Je vais mettre Yelle Gaines
troisième. Malgré l'échappée? Du coup, il sera dans l'échappée aussi.
Yelle, il travaille dur sur sa nat. Hein.
Et du coup, Martin quatrième?
Il va y arriver, ouais, avec Martin, tous les deux. Un train. Tu vas avoir un train belge. Et peut-être le pauvre Martin, quatrième. Non,
là, tu as peut-être perdu toute crédibilité quand tu as dit qu'il allait avoir un train belge.
Dans l'échappée.
Un, on veut bien, mais deux, là, faut pas déconner.
Ouais, c'est dur.
Allez, chez les femmes maintenant.
Oh, chez les femmes.
Une luxembourgeoise?
Ouais. Moi, je vais mettre Cassandre, Beth et Jeanne.
Merci.
Dans quel ordre?
Dans cet ordre-là.
Jeanne s'est déjà annoncée, elle va pas faire un seul podium en WTCS et la première fois qu'elle va monter sur le podium, c'est aux Jeux Olympiques. C'est tout vu.
Pour le moment, Cassandre n'a pas remporté de WTCS au format M.
Non, jamais. Ah. Non.
Bah, la deuxième.
Format olympique, jamais.
Elle n'avait pas gagné.
Que des distances.
Une année? Non,
elle est tombée. Elle aurait peut-être pu, mais elle est tombée. Non, mais elle était en forme, quoi, en vrai.
Alors, ensuite, on enchaîne avec le relais mixte.
Ouh, le relais mixte. Je vais mettre l'Allemagne. Je vais mettre l'Allemagne quand même.
L'Allemagne?
Pour gagner.
C'est quoi l'argumentaire de l'Allemagne?
Allemagne en premier, mais je pense qu'ils sont vraiment une équipe très complète. Et Laura Lindemann en sprint, elle est quand même forte. Combien de fois est-ce qu'elle a gagné en sprint? Je pense qu'il faut la laisser dernière.
Lena Meissner, si c'est eux, pas Lena, merde, comment?
Lisa Terch.
Shit. Nina Heim en sprint.
Mais elle n'est pas qualifiée.
Enfin, moi, je une référence, mais elle m'a mis une volée à Yokohama l'an dernier. Et elle vient du 1500 mètres.
Ouais, bah,
on m'a dit.
Il y en a, enfin, les Allemands, ils ont vraiment une équipe. Ça va être dur pour sélectionner leur équipe complète, je trouve.
Après, c'est les hommes, hein, qui poseront peut-être plus de problèmes.
Ouais. Mais Annel Wick, comme ça.
Source, Elfing ou je sais pas qui, et que ça soit ou Jonas, mais du coup pas. Enfin, tu me diras, ils seront pas les derniers, les garçons. Ou Lars Priester, dans tous les cas, ça nage relativement.
Ouais, c'est solide,
ça court.
Alors, en deux, alors?
En deux, Grande-Bretagne, et en trois, la Belgique.
Donc là, tu nous as donné une médaille quand même. J'ai eu peur quand même.
Une médaille d'or en plus.
Médaille d'or, ouais.
Non, médaille d'or.
La plus belle de tout.
Et est-ce que, tiens, à part le triathlon, est-ce que tu as d'autres hobbies dans la vie, ou est-ce que tu vis, manges, dors, triathlon?
Honnêtement,
j'ai fait du golf.
Non, ah, ça, c'est pas vrai.
Elle fait du golf?
Mon mari fait du golf.
On a fait jeudi.
Mon mari fait du golf, c'est son nouveau hobby. Voilà, j'ai été une ou deux fois avec lui pour nous amuser. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le temps. Je suis également dans le comité des athlètes du Team Belgium. Donc voilà, on a pas mal de projets un peu sur le côté. Non, mais c'est, je peux dire ça aussi parce que voilà, j'ai fait de l'athlétisme avant, natation avant. C'est beaucoup d'heures le tri. Trois sports tous les jours, presque tous les jours. Ça remplit très vite, très vite les journées, je trouve. Donc voilà.
Avec le kiné, la gym.
Bah oui, on est aussi notre propre agence de voyage. Enfin, il y a toute l'organisation aussi de la saison qui va autour. Propre manager, voilà. Enfin...
Tiens, d'ailleurs, juste une petite question comme ça pour finir. Là, tu parlais de voyage. Est-ce que en Belgique, vos voyages vers les WTCS sont pris en charge par la fédération belge?
Donc moi, j'ai déjà la fédération belge n'existe pas, mais
la ligue francophone. La ligue francophone.
Il a rien écouté.
Donc en fait. Moi, j'ai la chance de bénéficier d'un contrat bruxellois, encore un autre truc à part. Mais et grâce à ce contrat, donc j'ai un salaire qui vient tous les mois. Donc ça me permet de vivre de mon sport. Et après, il y a un budget avec des plafonds par catégorie, donc les vols, l'hôtel, etc. qui me donne un budget à l'année pour tout ce qui est stage, course, voyage, etc. Donc j'ai souvent pas assez pour combler toute la saison, mais quand même une grosse partie est couverte. Mais c'est, je pense que j'ai pas trop à me plaindre. Et tant que je refais mes critères chaque année, voilà, je peux bénéficier de ça. Okay. Chaque année.
Bah merci beaucoup Claire pour cette interview. Merci de ton passage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah pas forcément le résultat que tu nous as dit pour le relais mixte, parce que il manque une médaille quand même, ou vous virez une autre nation. Vous virez une autre nation, mais
à la limite, j'aime quand même.
Tu cherches juste pour l'année 2024. Un grand merci à toi pour tes réponses. Ouais. Et puis on espère te retrouver bientôt, et on se verra peut-être à Paris après la course ou avant pour fêter les différentes médailles des différentes nations.
Merci beaucoup à vous.
Et merci beaucoup à Claire Michel, et on enchaîne tout de suite avec le débat de la semaine, un débat qu'Alex va nous présenter. On t'écoute, Alex, c'est à toi.
On va faire ça vite. Bah, j'en ai parlé tantôt dans mon Gold Down de 2023, c'est un peu la perte de vitesse du triathlon. Et puis là, pour 2024, en fait, on sait déjà que la grosse actualité, c'est la concurrence de PTO. Avec la nouvelle série qui vient tout juste de sortir, Ironman Series, qui est une sorte de championnat du monde série avec des événements majeurs qui vont donner des points, plus d'argent pour les athlètes et tout. Évidemment, il va y avoir une confrontation entre les deux circuits. Les athlètes sont déjà demandés de choisir entre PTO et ou Ironman Series. Certains Norvégiens vont s'amuser à faire toutes, probablement que certains, mais en tout cas, au final, c'est ça le débat. C'est qu'est-ce qu'ils devraient choisir? Est-ce qu'ils devraient choisir Ironman ou PTO ou tout faire?
Moi, je choisis PTO quand même. Tant qu'à faire, tout faire si on peut, mais PTO, c'est vraiment le game changer. Ils sont arrivés, ils ont installé un nouveau système de ranking, ils ont ramené de l'argent. À la base, c'était aussi un syndicat, c'est eux qui ont mis en place vraiment un système efficace pour les grossesses. Elle en parlait tout à l'heure, Claire Michel, mais avec un support vraiment pour les femmes. Et pour moi, voilà, rien que pour ça, il faudrait, faut que les athlètes puissent courir sur PTO. Le problème, c'est juste ce que je viens de dire, c'est puissent courir sur PTO. C'est-à-dire que PTO compte limiter un petit peu l'accès à ce tour, et c'est pour moi la seule chose limitative. Mais après, Ironman, ils copient, ils essayent de garder les athlètes parce qu'ils font un petit peu face à une fuite des athlètes. Quand tu vois qu'Ashley Gentle, elle a pas couru sur le format Ironman, c'est quand même un petit peu embêtant, quoi.
Le problème, c'est que PTO, pour le moment, d'après ce qu'on sait, c'est qu'il y a 16 athlètes qui vont avoir des contrats, que pour le moment, on connaît pas vraiment les courses. On parle d'une troisième date qui devrait être annoncée bientôt, soit à Miami. Puis là, moi, où j'ai vraiment énormément de problèmes, c'est que on aime le sport quand on a des surprises, quand on a des nouveaux connus qui arrivent de nulle part, quand on a des Matisse qui finissent par réussir à émerger dans PTO, des Sam Ledlow qui ont des ascensions super rapides, des affaires comme ça. Là, on va se retrouver avec un circuit fermé, avec les athlètes toujours les mêmes, avec des chouchous qui parleront probablement plus anglais que français et ainsi de suite. Et moi, je veux un circuit qui est ouvert, où comme Ironman, tous les athlètes qui ont le niveau, ils vont pouvoir s'inscrire, puis ils vont pouvoir faire les courses. Puis c'est comme ça qu'on le sport doit marcher. Ça revient à ce qui se passe avec le football, où il y a la Champions League, où tu dois te qualifier, où tu dois faire tes
trucs. Mais au final, tu vois toujours les mêmes.
Puis le projet Super
League. Au final, tu vois toujours les mêmes.
Mais c'est ça. Mais au moins, tu dois quand même laisser une porte d'accès. L'autre truc, là où
pareil,
je pense
tu vois, PTO, pour accéder au contrat, il faut déjà que tu sois un bon athlète, tu vois, et c'est un peu une sorte de Ligue 1, Ligue 2, tu vois, tu auras une Ligue 1 où tu vas avoir des sous, et puis il faudra faire tes preuves pour monter. Et est-ce que Ironman, tu vois, disais qu'il y avait des chouchous, mais est-ce qu'Ironman n'a pas ses chouchous aussi? C'est toujours les mêmes sur lesquels ils communiquent. T'as toujours la même.
Mais attends, il y a un autre aspect qui est important là-dedans, puis c'est que au final, Ironman, tu sais, on peut en débattre super longtemps, etc. Là. Mais le développement des circuits des pros et ainsi de suite, on peut les accuser de tout, mais c'est que ils l'ont essayé d'être plus à la télévision, d'avoir plus d'argent, d'avoir plein de trucs, mais l'économie, elle est juste pas là. C'est comme si vraiment il y avait une opportunité d'avoir développé quelque chose de vraiment bien, comme PTO veut faire, ça existerait déjà. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte en 4 ans de PTO et encore plus cette année, c'est que leur modèle qu'ils essayent d'instaurer, il prend pas et que en ce moment, ils ont même pas les courses finalement pour le truc. Fait que moi, puis Julien là-dessus, Julien.
Pour ceux qui nous écoutent, le modèle PTO, c'est un modèle basé sur des paiements faits par des diffuseurs et des annonceurs, et donc pas par les groupes d'âge, le financement groupe d'âge comme
ouais, on fait. Et c'est là-dessus où toi et moi, on est en accord, c'est que c'est sûr qu'on veut qu'il y ait plus de pros, qu'ils fassent plus d'argent, etc. Moi, ça me fait capoter quand j'ai vu les chiffres à la fin de l'année où tu te rends compte que finalement, il y aurait juste 20 triathlètes qu'on fait plus que 100 000 par an, quand tu te dis tous les efforts, toutes les dépenses, parce qu'il faut, tu sais, il y a coach, il y a, en tout cas, les dépenses, logement, tellement de trucs, tu sais, tu te rends compte que le salaire, il est pas minable, mais il est comme pas gigantesque.
Ouais, mais est-ce que ça amènera pas un autre débat parce que l'interview de Claire a débordé un petit peu, donc on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que ça amène pas un autre débat aussi? Est-ce qu'on voit pas le triathlon plus beau qu'il est?
Mais c'est clair. Mais ça, c'est dur à dire.
Tu vois, est-ce que le triathlon, c'est pas juste un sport minoritaire puis voilà, c'est tout. Quand tu compares au cyclisme, quand tu compares est-ce que vraiment on a les moyens de le triathlon a les moyens
de ses ambitions? C'est peut-être ça le problème, c'est qu'on a voulu tout le temps aller trop vite. C'est ça qui se passe avec PTO d'une certaine façon, c'est qu'ils veulent tout le temps aller trop vite sur les choses. On n'est pas capable de créer des habitudes, des traditions, etc. Tu sais, l'adhésion sur les futures épreuves de PTO, elle est pas sportive. Ces épreuves-là, elles représentent rien pour les athlètes.
Elles représentent
juste une opportunité d'affaires. C'est la seule chose. C'est comme genre, qu'est-ce que t'aimes là? C'est quand un golfeur il te parle de la Ryder Cup. Ou quand un athlète, il te parle des Jeux Olympiques, c'est un projet, c'est pas une affaire de cash, ainsi de suite. Là, on est comme avec un truc, OK, le plan financier, on vous a pas tenté un truc, on espère qu'on va être rentable et qu'on va faire de l'argent, puis vous autres aussi, vous allez faire de l'argent. On parle juste d'argent avec PTO. Et moi, ça me fatigue. Puis c'est pour ça que c'est assez étonnant, mais c'est le Kona, il est encore significatif pour les pros. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de résistance à PTO, Kona... Et toutes, mais
on verra comment ça va se développer. C'est un des gros projets de 2024 et 2024, ça, je pense qu'on se rejoint aussi là-dessus, Alex, sera une année assez charnière pour PTO et les annonces dans les semaines à venir vont être importantes et de voir comment Ironman arrive à gérer ce bonus. Merci Alex pour cette petite brève, ce petit débat rapide sur PTO et Ironman. Moi, Jérémy, t'avais un avis là-dessus ou pas?
Non, mais par rapport à ce qu'Alex a dit, moi, je vous rejoins sur le fait que, au final, il y a beau avoir beaucoup d'argent injecté dans le triathlon, s'il n'y a pas la demande audiovisuelle des spectateurs, malheureusement, ça prendra pas. On a vu des événements qui se sont arrêtés alors qu'ils avaient l'air mythiques. À l'époque, c'était Ivy, des moines, où c'était une Coupe du Monde où il y avait 100 000 dollars à la gagne plus un Hummer. Et c'était un petit peu la course mythique en termes d'argent. Après, on avait eu une petite époque les trois courses, je sais plus si c'était challenge ou quoi, où t'étais millionnaire si tu gagnais les trois courses. Enfin, on a eu quand même des volontés d'inscrire des courses qui rapportent de la maille. Et je pense que c'est ce qu'a voulu faire aussi PTO. Et si ça marche pas, c'est que voilà, la demande est pas assez forte du côté des spectateurs.
Bon, on verra. 2024, année charnière. Merci beaucoup. On va basculer tout de suite sur nos pronostics pour l'année 2024 sur les courses majeures. Et c'est parti pour les pronos 2024. Pronos de l'année 2024. Alors, les pronostics, on va commencer par les Jeux Olympiques de 2024 de Paris. Vous avez entendu ceux de Claire Michel. On va commencer avec toi, Jeanne. C'est parti pour tes pronos. On dépote, hein, on y va pas par quatre chemins, on veut les noms. Hommes, femmes et mixtes. Allez, c'est parti. À toi,
Jeanne. Les trois, j'avoue, ou juste le gagnant?
Ah, les trois, tu t'engages. Eh ouais. Ça commence bien, quoi.
Ouais, de ouf. je vais quand même mettre. Mais c'est vrai que c'est. Franchement, c'est hyper dur parce que les garçons, il y a tellement de potentiel médaillable. Que ça va être dur, mais on va être un peu cocorico. Je vais dire Dorian, Pierre et Léo. C'est, en fait, c'est pour compenser avec ce qu'a dit Claire, tu vois. C'est pour faire
Lorient, la première. Pierre Léo, allez, le podium 100% français. Chez les hommes, pour toi, Jérémy.
Et en plus, elle a fait sa sélection, quoi. Donc là, on a déjà les trois Français qualifiés.
Ouais, on a la sélection aussi, ouais.
Ah ouais, faut pas dire.
Non, pour moi, je mettrais aussi un Français sur le podium. Je saurais pas la place et je saurais pas lequel des trois. Donc voilà, après, si.
Ça t'a pas le droit.
Évidemment, s'il peut gagner, Elden White, gagner. Étant...
Si je dois citer trois noms, franchement, je mettrais bien un mec comme Elden White, un mec comme Pierre, et peut-être un gars qui fait la surprise comme Hidalgo, le Brésilien.
Ah oui, c'est vrai.
Donc voilà, je me mouille un petit peu, et puis on verra ce que ça donne.
Allez, pour moi, ce sera. Sera Léo, Alex et Alexis et Eden Wilde. Ton top 3, Jeanne, chez les femmes.
Alors, je mets Beth, si j'ai rien à le dire. Kate.
Donc, Beth Potter, Kate Vought.
Ouais, et Laura Lindemann. C'est rien contre les Françaises, mais vu que j'ai grillé toutes mes cartes tout à l'heure, j'ai plus rien.
À toi, Jérémy.
Moi, je mettrais bien aussi Kate avec Emma Lombardi et Cassandre. Et je vois, pourquoi pas, Bess passer à côté de sa course. Voilà, ça ferait deux médailles françaises.
Alors, moi, je mets Bess Potter, Emma Lombardi et Laura Lindemann.
Moi, je vais mettre Bess et Gwen Jorgensen. Et j'y crois à fond. J'ai déjà mon argent placé. Puis Jeanne aussi, j'ai à fond. Ma maison est sur elle. Si t'as pas une médaille de bronze, je ne te parle plus jamais.
Déjà, tu seras SDF ce soir.
Ouais, je vais être SDF. Ok, c'est ça.
Et chez les hommes, Alex, tu peux nous donner ton prono chez les hommes?
Là, je vais me faire détester par tous les Français.
Je les ai mis les trois, du coup, ça fait la moyenne.
Bah, tu sais, par logique... Le plus fort, c'est Alexis. Le deuxième, c'est White, c'est clair. Puis le troisième, j'espère que c'est un Français, mais j'ai l'impression que ça va être un Australien.
Un Australien ? Ah oui, Mathieu. Mm-hmm. Ça peut être un Allemand ou un Portugais aussi. Hein. Ouais. Ou même un Belge.
Non.
Oui, mais si c'est pas un Français.
Mais, attends, c'est quoi la phrase je vais citer la phrase la plus... La plus belle phrase de Spider-Man. Attends deux secondes, Jeanne. Il vaut mieux s'attendre au pire pour ne pas être déçu. Et je trouve que ça va parfaitement avec la situation des Français.
Ouais, c'est pas faux. Mais Morgan Pearson, c'est ton chéri d'amour d'habitude, non? Puis maintenant, d'accord.
Non, c'est fini. Il est en dépression. Non, mais il y a trop de choses qui se passent dans sa vie.
Allez, c'est parti pour le relais mixte. Jeanne, c'est à toi.
Alors moi je mets quand même Grande-Bretagne premier, même si je suis assez d'accord avec Claire que les Allemands vont être très forts. Et ensuite ça va jouer au sprint entre les Français et les Allemands, enfin du coup entre une Française et une Allemande. Et d'après Claire, si ça se finit au sprint, il y a moyen que Laura Lindemann gagne, et du coup Allemagne 2 et France 3.
Jérémy?
Ben, j'ai les mêmes pays, mais pas dans le même ordre. Moi, je mets France, Allemagne et Grande-Bretagne entre.
Alors, j'ai les mêmes pays aussi, mais ça va être embêtant. Alors, je vais mettre France, Grande-Bretagne et Allemagne. Alors, histoire d'avoir un petit peu le même ordre. Et puis en quatre, allez, je mets la Belgique, parce que je sais que Claire-Michel nous écoute encore en off. Donc, allez. Et puis
une médaille en chocolat, donc ça reste une médaille et du chocolat belge.
Ouais, voilà. Et puis en cinq, le Luxembourg. Et puis en six, le Canada. Comme ça, tout le monde est content autour de la table. Allez, à toi, Alex. Alex, il a dû nous laisser. Il nous avait donné son top 3 avant de partir, et c'était la France, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande. C'est vrai qu'il a mis une pièce depuis longtemps sur la Nouvelle-Zélande.
Ouais, j'allais dire, si je devais dire à sa place, j'aurais mis la Grande-Bretagne, cela dit. Mais je savais qu'il allait mettre la Nouvelle-Zélande, mais je pense qu'il s'emballe un peu, parce que franchement, non, Alex.
Bah pour 2028 peut-être, mais là on est, là, ça va être un peu juste quand même. On verra.
Ouais, non. Bah oui, mais 2028, ça finira par des garçons en plus. Il faudra que ça finisse par Hayden, quoi.
Et allez, on va passer cette fois au pronostic sur les championnats du monde Ironman, donc pour 2024. Alors en 2024, on aura le championnat du monde à Nice pour les femmes et à Kona pour les hommes. Et c'est parti pour ton prono. Tu peux nous donner juste la victoire cette fois. Enfin, vous pouvez nous donner juste la victoire.
Alors, du coup, à Nice, chez les femmes, oui. Bon, on va dire Taylor Nib. Et du coup, chez les hommes, à Kona. Ah oui, bah, Gustav Iden.
Et toi, Jérémy, alors?
Bah, moi, du coup, Claire nous souffle pile ce qui était mon choix.
Mais reviens en ligne, Claire, reviens en ligne. Tu peux venir avec nous, reviens en ligne.
Claire, elle a exactement les mêmes pronos que moi. Moi, je voyais bien un Magnus Ditlev sur Kona, parce qu'il a un gabarit quand même qui passerait bien pour moi sur ce parcours. Et Anog, pareil, un petit gabarit pour Nice. Franchement, je pense que c'est le mieux.
On réaccueille Claire Michel avec nous, qui nous avait pas quitté en fait, elle était en off. Alors Claire, tu peux nous donner toi ton prono pour Kona et pour Nice?
Ouais, moi j'avais dit Anne Haug pour Nice. Je pense que effectivement, à mon avis, elle s'est bien grimpée. Et Ditlev pour Kona, parce que je pense aussi il est tellement fou de tout ce qui est aérodynamique, etc., que c'est un parcours aussi qui pourrait lui convenir.
Alors pour Alex qui est hors ligne, mais nous avait soufflé Rudy Van Berg pour lui à Kona et Anne Haug pour Nice.
Ça fait 3 Anne Haug sur 4 prétendants, enfin 4 personnes qui ont voté, sachant que moi j'y connais pas grand-chose.
Ouais, moi je vais juste voter avec parce que c'est une athlète qu'il mérite, je trouve, mais les autres le méritent aussi, mais j'aimerais bien voir Laura Philippe s'imposer un jour sur je suis pas sûr que Nice lui convienne forcément, mais c'est une athlète ouais que j'aimerais bien voir remporter un petit peu, et ça changerait d'Anne. Et puis chez les hommes, effectivement, Ditlev gros favori, voilà. Et puis bah pourquoi pas Sam qui nous fait le doublé, quoi. Il faut pas l'oublier, il a fait 2 en 2022, premier en 2023, donc pourquoi pas une nouvelle médaille en 2024.
Record de la course à pied cette fois.
Voilà, c'est ça. Complète tous les records. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Merci à Claire d'être restée jusqu'au bout, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur nos réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez suivre Claire Michel sur sa page Insta et sa page Facebook, Jeanne Leher, Jérémy Quindos, sur Trims et la chaîne du triathlon. Et vous nous retrouvez sur Spotify, Deezer, etc. Buy Me a Coffee si jamais le trichot vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir. Et on se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau trichot. À bientôt. Salut.
Salut. Ciao.